Bonjour à tous, Amy Webster, pour vous guider dans la troisième semaine de ce programme Easy Detox. Alors voilà, nous entrons dans la semaine d'intégration, la semaine de célébration, la semaine de transition. C'est une semaine que j'estime très très importante dans ce programme parce que de nombreuses personnes, quand elles se lancent dans une détox, ne prennent pas garde de la manière dont elles peuvent réintégrer un rythme de croisière en termes alimentaires. Comment réintégrer la vie habituelle après avoir fait une semaine de cure assez intensive. C'est important de le faire doucement, de le faire en douceur. Et c'est pourquoi j'ai prévu cette troisième semaine dans le programme. Une troisième semaine où vous allez continuer à être guidés, soutenus. Et on va continuer à partager pour voir la manière dont nous réintroduisons une chose après l'autre. Et aussi la manière dont certains d'entre nous auront choisi d'intégrer un certain nombre d'habitudes qu'on a testées cette semaine. Et c'est en tout cas mon vœu le plus sincère. Voilà, en tout premier lieu, je voulais dire que je suis vraiment impressionnée, en tout cas dans cette première édition de Easy Detox, par la quantité de partages sur notre groupe Facebook et la qualité des messages partagés, des résultats obtenus par plusieurs personnes, et c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que je peux constater? Un regain d'énergie, des douleurs qui disparaissent, un certain calme qui s'installe, des humeurs qui sont de meilleure qualité, une digestion améliorée. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été soulevées sur le groupe et je trouve ça vraiment extrêmement enthousiasmant et très, très gratifiant. Alors voilà, pour cette troisième semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, mais c'est une chose à faire dès aujourd'hui et ce week-end, et je tiens beaucoup quand même à la préciser, c'est simplement de célébrer. Il faut célébrer ce qui s'est passé cette semaine, célébrer tout ce que vous avez accompli, parce que c'est vraiment un énorme travail, un énorme progrès en avant pour vous. C'est pas donné à tout le monde de se donner la peine de vivre une expérience pareille. Et ce que je voudrais dire, c'est que on est nombreux à avoir entendu parler de détox, que ce soit à la télévision, dans les magazines, les sociétés, etc. Donc la détox, c'est quelque chose qui est devenu très à la mode. Beaucoup de monde en parle. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que les consciences se sont un peu réveillées et qu'on réalise qu'il est très très important de surveiller ce qu'on mange et surtout de passer par des moments de cure pour essayer d'aider le corps à rentrer dans une phase de nettoyage et de l'aider à se transformer, à se guérir. C'est aussi une manière pour nous d'expérimenter une manière plus saine de vivre. Et à ce titre, je pense que c'est sans doute le plus grand intérêt de ce genre de programme. Par contre, lire à propos de tout ça, apprendre, en discuter, c'est une chose. Mais le vivre dans son corps, vraiment ressentir toutes ces sensations qui sont nouvelles, être en contact avec son corps, apprendre à l'habiter différemment, apprendre à interpréter tel ou tel symptôme, telle ou telle sensation, c'est très très important. Et j'espère que cette semaine vous a permis d'expérimenter ça d'une manière vraiment profonde. Et ce qui se passe en fait, et qui n'était pas conscient pour vous tous, c'est qu'en vivant ça, vous venez de marquer vos cellules avec une expérience qu'elles ne vont pas oublier. Vous n'allez pas l'oublier, mais votre corps non plus. Votre corps maintenant a enregistré ce que c'est de se sentir mieux, de se sentir léger. Pour certains, c'est la première fois. Pour d'autres, c'est peut-être une répétition ou une manière encore plus profonde de l'avoir vécu. En tout cas, si j'en crois certains témoignages, il semblerait que cette expérience ait été vraiment, vraiment profonde pour beaucoup d'entre vous. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette expérience va être marquée. Elle va être marquée dans vos cellules, marquée, programmée, si vous voulez, en quelque sorte, dans votre corps. Et ça va vous permettre, en fait, d'aller beaucoup plus loin. Ça va aussi vous permettre de le recommencer, même si c'est beaucoup plus tard, même si c'est dans quelques années que vous avez vraiment un peu perdu, vous avez une certaine distance, est installée avec cette expérience. Ça ne va pas vous empêcher d'y revenir plus tard. Et votre corps, il va se rappeler de cette expérience qu'il a déjà vécue. Donc à ce titre, c'est aussi extrêmement intéressant. Tout va être beaucoup plus facile. Maintenant, tout effort que vous allez consentir pour aller mieux, pour vous sentir mieux, pour vous remettre en forme, pour vous guérir d'une chose ou d'une autre, tout ça, ça va être beaucoup plus facile parce que vous l'avez déjà fait. Vous l'avez fait, vous savez que c'était peut-être pas facile, vous savez qu'il y a eu des hauts et des bas, vous avez su vous adapter à ces hauts et ces bas, à garder le cap, à faire quelques souplesses, quelques écarts si besoin, mais à revenir sur le chemin que vous vous étiez fixé et vous avez atteint pour la plupart vos objectifs, j'en suis sûre, sinon plus. En réalité, on fixe des objectifs au début de l'exercice, mais c'est sans vraiment savoir quelle va être l'expérience vécue pendant cette aventure. Maintenant que vous l'avez vécue, je pense que pour certains, vous allez penser que, en fait, les résultats sont encore plus plus élevé que ce que vous attendiez au tout début. Donc, c'est très important de célébrer. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir noté tous ces progrès, d'avoir noté tout ce que vous avez vécu. Donc, je voulais rappeler chaque jour, scrupuleusement, la semaine qui vient de s'écouler, de remplir votre journal alimentaire, parce que c'est vraiment le seul endroit où vous allez pouvoir retrouver les sensations que vous avez vécues et comment vous l'avez fait. Alors, ces sensations de légèreté, de regain d'énergie, d'un mieux-être, tout ça, ça va vous guider à l'avenir. Mais la meilleure manière que vous allez avoir de revenir en contact avec ce vécu, ce seront vos écrits qui sont les traces de ce voyage. En fait, c'est votre journal alimentaire qui va vous permettre de revenir en contact avec les recettes qui vous ont plu, parce que vous avez noté ce que vous avez mangé, et puis vous pouvez d'ailleurs prendre un moment ce week-end pour revoir votre journal alimentaire de ces 7 derniers jours et peut-être mettre des vues, mettre des titres, mettre des croix, mettre quelques signes que ce soit, où vous mettez au stade le boss, enfin voilà, les recettes qui vous ont plus que les autres et que vous seriez prêt à refaire, même dans votre quotidien, ou bien si d'expérience vous reveniez à faire cette détox pour que ce soit encore plus facile pour vous de vous rappeler qu'est-ce que c'est qui a bien marché pour vous. Et puis surtout, je pense qu'il serait intéressant de prendre un moment ce week-end pour vous asseoir et simplement réfléchir un tout petit peu sur les leçons que vous avez apprises durant cette détox. Alors quand je dis, on est vraiment dans ce programme de détox, mais comme vous l'avez bien vu, on a vraiment passé une première semaine à se mettre dans le bain, à se préparer et à organiser tout ce qu'il y avait à organiser. Cette semaine écoulée, on était vraiment dans l'action et dans le repos, mais dans l'action de je me nourris de manière très très pure, très très simple et restreinte afin de mettre mon corps et mes organes digestifs au repos. Voilà, on a fait ça pendant toute cette semaine, on a noté ce qu'on ressentait chaque jour et ce qu'on a fait chaque jour et maintenant je pense qu'il est très utile pour vraiment bénéficier de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez fait, de noter sur un papier quelles sont les leçons que vous allez retenir de cette détox. Qu'est-ce qui pour vous a été le plus marquant? Qu'est-ce qui pour vous a été une sensation nouvelle? Qu'est-ce que vous avez appris sur vos capacités de vous adapter, de rebondir, sur votre patience, vos capacités de supporter un certain inconfort, de vivre avec, mais de retrouver l'équilibre, voire plus encore que ce que vous connaissiez avant? Tout ça, ce sont des points très importants et qui pourront vous être utiles pendant des années à venir. Alors, non seulement célébrer, féliciter, ça c'est important, mais comment est-ce que vous allez vous célébrer justement? Est-ce que vous avez prévu une récompense? J'en ai parlé dans un courrier cette semaine, vous dire est-ce que vous avez envisagé de vous faire plaisir ce week-end pour vous féliciter d'avoir passé une semaine de détox et de l'avoir bien réussi, de l'avoir mené à bien. Vous pouvez en être fier, vos proches peuvent être fiers de vous. Et maintenant que la pression va un peu être soulevée, que vous allez vous permettre davantage d'aliments qui ont été plus ou moins interdits ou écartés en tout cas durant cette semaine, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire cette semaine pour vous faire plaisir? Alors j'espère que ça ne va pas être le grand gueuleton, que ça ne va pas être forcément la sortie au restaurant en se permettant tout sans limite. Non, parce que cette semaine, j'insiste encore beaucoup là-dessus, il faut continuer à être vigilant et il faudra aller en douceur. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire plaisir ce week-end? Que ce soit une sortie, un loisir, retrouver des amis, vous amuser surtout, j'ai envie de dire, mais vous amuser, prenez le temps de vous amuser, ou bien simplement de continuer sur cette sérénité, cette paix à laquelle vous avez goûté par une alimentation beaucoup plus légère. Ça a permis à votre corps d'être plus alerte, à votre esprit d'être aussi plus connecté. Donc toutes ces choses-là, peut-être que vous avez envie de rentrer encore plus en profondeur là-dedans et peut-être que ce week-end sera l'occasion tout simplement d'une balade dans la nature, d'une séance de méditation, d'une séance de yoga ou d'une sortie à vélo. Peu importe, choisissez ce qui vous fait plaisir et faites-le sans retenue, vous l'avez bien mérité. En tout cas, moi, je tiens à vous féliciter personnellement. Je suis vraiment fière de vous. Je suis fière de tout ce que vous avez accompli. Je suis fière de tous les partages que vous avez apportés sur la page Facebook. Et pour ceux qui ne sont pas sur la page Facebook ou pour ceux qui ne sont pas au même rythme que nous, je tiens à vous féliciter quand même d'avoir pris ce pas, d'avoir voulu et sans doute pu avancer dans ce chemin et de pouvoir enfin atteindre un niveau de meilleure santé, si pas de pleine santé. Dans la semaine qui vient et dans les semaines qui suivront, je vous encourage pourtant à continuer la tenue de votre journal alimentaire. En effet, je pense que vous vous êtes rendu compte à quel point c'est utile de noter comment on se sent, de noter ce qu'on fait dans la journée, de noter les choses qui nous sont arrivées, de noter voire aussi de rajouter peut-être certains éléments comme la gratitude. Je vous ai parlé cette semaine dans un de mes messages de cette pratique quotidienne qui peut être absolument extraordinaire, qui s'appelle le journal de la gratitude. C'est une pratique qui vous encourage tous les jours à noter, que ce soit en fin de journée, en cours de journée, peu importe, à noter sur une feuille de papier les 5 choses pour lesquelles vous éprouvez de la reconnaissance. 5 choses. Ça peut être moins. Si 5 vous paraît difficile, commencez par 3, mais vous verrez que ça devient une habitude. Et le plus vous pratiquez la reconnaissance et la gratitude, le plus elle est facile à identifier. Et parfois, c'est difficile de vous arrêter à 5. Si vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à 5 du reste. Hein. Mais essayez simplement de noter au moins 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Alors quand on dit choses, j'entends pas forcément des objets, au contraire, mais des personnes, bien entendu, mais des expériences, des rencontres, des événements vécus, des succès rencontrés. Voilà, tout ce qui vous passe par l'esprit, mais pour lesquels vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ça, c'est une pratique qui vraiment peut être tellement positive pour nous apporter la joie et nous aider à rester concentrés sur notre cap, à rester serein et surtout à rester dans la maîtrise. Et pour moi, la maîtrise, ça veut dire non seulement décider de la vie qu'on veut mener, mais ça veut dire aussi être responsable de soi, de sa santé et de son bien-être. Et quand on a atteint ce niveau de responsabilité et d'autonomie, je pense qu'on est des bien meilleures personnes pour notre entourage, on est des meilleurs partenaires, on est des meilleurs parents, on est des meilleurs enfants, des meilleurs frères, sœurs, cousins, amis, collègues. Bref, on a un impact qui est bien plus positif sur cette terre et sur cette existence. L'autre chose que je voulais dire à propos de cette semaine d'intégration qui vient, c'est évidemment de vous encourager à poursuivre sur ce chemin que vous avez entamé. Une détox est l'occasion parfaite pour revisiter ses habitudes, pour en adopter de nouvelles, et pourquoi pas sur le long terme. Si le cœur vous en dit, si le corps en redemande, en tout cas, ce n'est pas le moment de se priver. Donc continuez, gardez les habitudes qui vous ont convenu, continuez, mais je vous dirais, mais surtout avec les jus verts, avec les smoothies verts, le matin ou bien à midi pour remplacer un repas quand vous êtes en déplacement, ou bien en fin d'après-midi pour essayer d'éviter ces moments d'hypoglycémie où on a envie de se ruer vers quelque chose. En tout cas, allez-y doucement et gardez les bonnes choses qui vous ont bien servi, que vous avez vraiment appréciées et qui sont peut-être finalement, au bout de 7 jours seulement, devenues une nouvelle habitude pour vous. Cette semaine de transition sera l'occasion de certaines choses, en particulier d'apprécier ses efforts et les résultats obtenus, mais aussi de poursuivre sur le repos digestif encore un petit peu. Voilà, parce que le foie, les intestins, la vésicule biliaire sont au repos, puisqu'on a interrompu cet apport en matière grasse, un maximum. Continuez encore quelques jours, si vous le pouvez, sinon réintroduisez certaines matières grasses, mais petit à petit. Conservez certaines habitudes, évitez les aliments à potentiel toxique, en tout cas pendant cette semaine, et sentez-vous autonome et apte à faire et à tenir de meilleurs choix alimentaires. Et c'est ça dont il va être question cette semaine. Ça va être d'observer qu'est-ce que maintenant je peux faire. Alors la semaine passée, vous avez suivi un programme qui était très détaillé, très explicite, sur ce que vous pouvez manger selon la formule que vous avez choisie. Alors il y avait des écarts possibles, il y a eu beaucoup de souplesse qui vous a été proposée. Mais l'important, c'était ça, c'est qu'on a vraiment restreint l'alimentaire, on a vraiment essayé de rester dans le cru, si pas dans le cru, dans des choses vraiment très très propres et très digestes, et on a privilégié un maximum tout ce qui était liquide, à savoir les jus et les smoothies, tout en buvant un maximum d'eau. Parmi toutes ces choses-là, essayez de garder les choses qui ont été les plus faciles pour vous, ou garder tout ce que vous avez fait, et rajouter une chose à la fois, petit à petit, en douceur, et voyez comment vous réagissez. Si vous faites ça très doucement, et là j'ai proposé une semaine d'intégration, mais rien ne vous empêche de réintégrer votre quotidien, enfin comment dire, réintégrer une vie que vous pouvez mener sur le long terme, qui ne soit pas une cure, réintégrer ce mode de vie petit à petit, sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, ça ne tient qu'à vous. Ce qui serait formidable, c'est de chaque jour intégrer une chose à la fois. Et la raison est simple. Tout d'abord parce que ça va être beaucoup plus facile pour votre corps de s'habituer. Mais la seconde chose, c'est que ça va vous donner l'opportunité à vous de savoir comment vous réagissez. Peut-être que finalement, c'est les matières grasses qui ont constitué une certaine lourdeur, une lourdeur pour la digestion, une lourdeur pour le métabolisme en général. Et que maintenant, vous allez les réintégrer, vous allez voir certaines choses se passer. Et c'est ça qui va être un indicateur de ce que vous aurez intérêt à faire pour vous sentir tout le temps bien. Donc l'idée maintenant, ce n'est pas de vous donner un guide, vous n'allez pas recevoir des menus, des listes d'achats pour cette troisième semaine, puisque maintenant l'idée est d'évoluer par rapport à où vous en étiez pendant cette cure. Donc vous en êtes tous à des stades différents et il serait, je pense, illusoire de vous proposer un menu pour cette semaine parce que vous allez tous, vous êtes partis d'un endroit très différent. Vous avez expérimenté des choses assez différentes. Il y avait quand même trois formules proposées puisque vous avez fait effectivement avec ces formules finalement ne regarde que vous. Et ce que vous allez faire cette semaine, c'est simplement évoluer par rapport à la formule et à la situation que vous avez connue cette semaine. Donc, par exemple, l'idée est de donner au corps le temps de terminer sa détox en douceur. Selon la formule sur laquelle vous avez vécu cette détox, il est recommandé par exemple de passer à la formule supérieure. Et ce que je veux dire par là, c'est par exemple, si vous avez fait la cure tout vu, alors soyez attentif à réintroduire les aliments solides doucement. Une phase de transition par une alimentation presque exclusivement crue serait alors recommandée. Si vous avez suivi la cure tout cru, alors vous pouvez commencer à réintroduire plusieurs choses, mais pas toutes à la fois. Alors, par exemple, commencez par les bonnes matières grasses. Je vous disais que cette semaine, bah, par exemple, moi, je me suis privée d'avocat ou d'olive, ou même d'huile. Je n'ai utilisé aucune huile dans aucune de mes salades. Donc, c'est peut-être l'occasion d'en réintégrer, mais mettez-en beaucoup moins que ce que vous faisiez avant. Juste une petite cuillère d'huile d'olive ou une petite cuillère d'huile de lin sur votre salade ce soir pour faire la différence. En plus, ça apportera des nutriments intéressants. Réintégrer ces bons gras, ça peut être aussi les graines de chia. Si vous n'en avez pas consommé cette semaine, alors réintroduisez les graines de chia, mais vraiment sans retenue, parce qu'elles sont très très bénéfiques. Des graines de lin, des graines de chanvre, qui vous apporteront d'ailleurs davantage de protéines. Alors voilà toutes les choses qu'on peut faire si vous êtes parti de la formule tout cru. L'autre chose serait de réintégrer des céréales cuites, comme je l'ai fait hier soir moi-même. J'en ai éprouvé vraiment beaucoup le besoin et j'ai mangé une assiette de quinoa hier soir, enfin pas une grande assiette, une petite assiette de quinoa avec beaucoup de légumes crus par-dessus et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fatiguée, mais cette fatigue du corps qui a été rajoutée à la fatigue d'une longue journée où j'ai été très très fort sollicitée, m'a fait du bien quelque part et m'a calé un petit peu plus que je ne l'avais été pendant 10 jours. Donc, c'était une bonne chose. Si vous êtes au tout cru, alors soit vous intégrez, vous restez dans le cru, mais en intégrant ces nouveaux ingrédients, soit vous décidez, bon, ben voilà, maintenant je vais passer aux légumes vapeur, je vais me permettre, si je ne suis pas végétalien, par exemple, un petit morceau de poisson, etc. Voilà, et c'est d'ailleurs justement ce que j'allais dire pour la troisième formule. Si vous avez suivi la formule Easy pendant toute cette semaine, alors c'est peut-être l'occasion de aussi réintégrer des matières grasses, puisque celles-ci ont été exclues. De poursuivre sur le chemin déjà proposé des céréales cuites accompagnées par des légumes vapeur, toujours, alors n'oubliez pas ça, toujours précédé des crudités, hein, commencez toujours votre repas par des crudités parce que c'est ce qui va vous permettre de disposer des enzymes digestives et qui va donc aider votre digestion. Et si vous tenez aux protéines animales, alors je vous propose d'attendre encore quelques jours avant d'introduire la viande, mais vraiment, à part ça, ça n'en tient qu'à vous. Hein. On arrive sur un week-end, et si vous aviez des engagements, si vous aviez déjà une soirée entre amis, etc., ou une sortie au restaurant, alors faites-vous plaisir. Et puis je pense qu'il faut, surtout s'écouter. Écoutez-vous et suivez vos instincts, ça c'est vraiment le meilleur indicateur qui soit. Voilà. Sinon, dans le guide de la semaine 3, je ne vais pas aller en détail là-dedans, mais vous pourrez lire un certain nombre de recommandations en termes de nutriments, en termes aussi d'aliments et de préparations culinaires que vous pourrez suivre cette semaine et dans les semaines qui suivent pour essayer de retrouver un rythme alimentaire, un mode alimentaire qui vous conviendra pour le long terme. Alors, j'ai décrit par exemple un certain nombre de choses concernant mon opinion, bien entendu, concernant les protéines et où vous trouvez votre protéine, si vous êtes végétalien ou non, et qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier. Et en deux mots, les protéines, pour moi, se trouvent essentiellement dans les légumes à feuilles vertes, comme vous le savez, que vous pouvez continuer, que vous soyez végétalien ou non, continuer à consommer ces feuilles vertes chaque jour et en quantité, si vous le pouvez, ainsi que des algues. Parce que ce sont vraiment dans ces produits-là que vous allez trouver un maximum de nutriments, dont des protéines de qualité extraordinaire et biodisponibles. Privilégiez donc la qualité de ces protéines. Si vous voulez réintégrer des protéines animales, Alors, de nouveau, privilégiez ici aussi la qualité. Et vous devez regarder, en ce qui concerne la qualité de la viande, ou du poulet, etc., s'ils sont bio, sauvages, ou des élevages respectueux des animaux et qui offrent des conditions de vie décentes et saines. Et mais surtout, pensez à limiter la quantité. Parce que ce sont les quantités trop élevées de protéines qui vraiment ont causé beaucoup de dommages à la santé de la population. Si le poisson est une option pour vous, alors le poisson reste certes préférable à la viande, mais faites attention parce que effectivement la pollution des mers s'est généralisée aujourd'hui. Même le poisson est riche en toxines. Donc voilà, si on veut réduire quand même l'apport en toxines, eh bien on va limiter en tout cas la fréquence, le nombre de repas qui comprennent des protéines animales. En tout cas, c'est ma recommandation. Toujours dans les protéines, alors les œufs sont un aliment complet. Il n'y a aucune raison de s'en passer. Vous avez mauvaise presse à une certaine époque, mais on sait aujourd'hui que ce qui avait été conclu à l'époque est faux, s'avère faux, et que les œufs ne nous apportent pas du mauvais cholestérol. Au contraire, c'est vraiment de très bonnes protéines et un aliment complet. Je ne vous propose pas d'en consommer en quantité, mais en tout cas, des œufs par-ci, par-là, à mon avis, c'est une bonne chose. Les matières grasses sont très importantes. Alors, il faut vraiment arrêter la mauvaise presse qui a aussi été faite par rapport aux matières grasses et de penser que les matières grasses sont la source du surpoids, de l'obésité et de ces problèmes-là. Non, en fait, ce n'est pas les matières grasses, c'est les mauvaises matières grasses. Donc, il faut vraiment faire la différence entre les bons gras et les mauvais gras.
En effet, il faut vraiment faire la différence entre les bons gras et les mauvais gras. Car les bons gras sont vraiment indispensables pour notre santé, tandis que les mauvais gras vraiment endommagent notre santé. Donc vraiment, il faut faire cette distinction. Alors parmi les bons gras, vous m'avez déjà entendu en parler ces dernières semaines, surtout quand on parle d'alimentation vivante, on va privilégier comme bons gras, en principal, les avocats, les noix de coco, les olives, les graines de chia, de lin et de chanvre, qui sont ces fameuses petites graines riches en oméga-3, ainsi que les autres graines, qui sont aussi des sources de bons gras, comme les graines de tournesol, bien sûr toutes les noix, ou ce qu'on appelle les oléagineux, mais aussi bien sûr, les huiles végétales, mais toujours faire attention de choisir des huiles végétales de première pression à froid. Théoriquement, il ne faudrait jamais chauffer les matières grasses, parce qu'elles se détériorent, en particulier l'huile de lin, dont c'est déjà très connu qu'il faut la conserver au frigo, au frais. Mais c'est vrai de toutes les huiles qui sont riches en oméga-3. Donc l'huile de caméline, l'huile de lin, l'huile de chanvre, doivent absolument, l'huile de chia aussi, bien entendu. Donc toutes ces mêmes petites graines que je viens de vous mentionner et qui sont extrêmement bénéfiques pour l'organisme. Parmi les mauvais gras, par opposition, ce sont ceux qui sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire, les fameux graisses trans et hydrogénées, qui sont oxydées et qui nuisent vraiment à notre santé, elles sont cancérigènes, donc il faut vraiment les éviter. Donc faire la part des choses entre ces deux types de gras. Alors parmi les gras, évidemment, on pourrait penser aussi au beurre. Alors si vous évitez les produits laitiers, si vous êtes dans l'alimentation vivante, on ne consomme plus vraiment de beurre, ce qui est mon cas. Moi, ce que je consomme par contre, c'est le ghee. C'est ce beurre clarifié qui nous vient de l'Ayurveda et qu'on trouve dans les magasins bio. Et de temps en temps, quand j'ai envie de beurre, je consomme celui-là qui contient encore la fameuse vitamine A. Donc c'est vrai qu'on peut décider de continuer à consommer du beurre en petite quantité parce qu'il apporte des bonnes choses. Par contre, moi j'éviterai à tout prix des produits tels que margarine, etc. qui sont vraiment... Là, ce sont justement des graisses hydrogénées, industrialisées, qui pour moi n'ont plus rien de très naturel. Les glucides, alors cette troisième grande catégorie de macronutriments, après les protéines et les matières grasses, ces glucides constituent, il faut bien le dire, notre principale source d'énergie, puisque tous les glucides sont transformés en glucose, et on a besoin de glucose pour avoir de l'énergie. Donc on a beau dire les sucres sont mauvais, c'est vrai qu'on a quand même besoin d'énergie. Mais tous les fruits et les légumes contiennent des glucides. Mais c'est aussi vrai, même la viande contient des glucides, mais en très, très infime quantité. Alors les glucides, nous, il faudrait les chercher en priorité dans les fruits et dans les légumes. C'est là qu'on va trouver tout le glucose dont on a besoin pour notre énergie. Malheureusement, dans notre société, on a tendance à trouver les glucides surtout dans les céréales raffinées, qui constituent une part très très importante de l'alimentation moderne. Il suffit de voir la quantité de pâtisseries, de pain, de pâte à gâteau, pizza, pâtes. Vraiment, tous ces produits contiennent des céréales raffinées, enfin surtout du blé raffiné, de la farine blanche, pour ne pas dire autrement. Et c'est vraiment ce type d'alimentation qui provoque une pandémie de déséquilibre hormonaux, de sucre élevé, enfin le taux de sucre sanguin qui est beaucoup trop élevé pour une santé optimale. Tous les cas de prédiabète ou de résistance à l'insuline qui sont des états de prédiabète dont on n'est pas conscient, mais qui risquent de se transformer en diabète. Si le corps ne parvient plus à fonctionner parce que la quantité de sucre et de sucre trop raffiné est trop élevée, le pancréas n'arrive pas à suivre, il n'arrive pas à produire l'insuline qui est nécessaire pour accompagner, enfin transformer donc ces glucides en glucose et accompagner le glucose vers les cellules. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, ce glucose est stocké dans les matières grasses et c'est ce qui provoque en réalité ce surpoids, cette pandémie de surpoids dans nos sociétés occidentales. Mais ce n'est pas qu'une question de poids, vraiment le diabète ne s'accompagne pas forcément de surpoids, mais c'est un déséquilibre du métabolisme qui peut être grave et dont il faut être particulièrement vigilant. Donc moi je vous invite vraiment à surveiller cette quantité de sucre que vous avez dans le sang. Si vous doutez que vous avez un problème de ce côté-là, mais vous n'en êtes pas sûr, et vous aimeriez vraiment pouvoir vérifier cette information, mon meilleur conseil est d'obtenir ces petits appareils en pharmacie qui permettent de mesurer le taux de sucre dans le sang par une petite pique dans le doigt, ce qu'utilisent les personnes souffrant de diabète. Ils utilisent ça quotidiennement pour mesurer ce taux de sucre dans le sang. Et c'est très facile à faire et ça vous permettrait de voir si avant un repas, après un repas et une demi-heure après le repas, votre taux de sucre reste élevé. Mais enfin, ça reste quelque chose d'assez technique et peut-être pour un prochain programme. Mais pour ce qui est de notre programme de détox, mon seul but ici, c'était de vous aviser sur le fait que la consommation de sucre trop régulière et trop fréquente est vraiment à proscrire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai découvert l'alimentation vivante, j'ai vraiment été éclairée sur ce sujet. Et j'ai cessé de manger la quantité de pain, de pâtes et d'autres produits à base de farine raffinée que je consommais à l'époque. Et je dois dire que j'en ai vraiment constaté un net bienfait au niveau de ma santé. L'autre chose qu'il faudrait dire à propos de sucre, c'est une autre pandémie qui est liée, c'est celle des fameuses candidoses ou autres infections bactériennes qui se développent à merveille dans un terrain acide. Et le sucre, c'est de l'acidité. Les farines raffinées sont de l'acidité. Et donc, le plus vous allez consommer de ces produits, le plus vous allez entretenir ce type d'infection. En fait, ce sont des infections chroniques qui s'installent en vous avec vraiment une culture de bactéries qui va s'enflammer, qui va créer des inflammations dans les articulations, dans les muqueuses. Et ça s'exprime à différents niveaux dans le métabolisme et ça peut être extrêmement désagréable. Donc, mon conseil, c'est de privilégier surtout les fruits de manière quotidienne, mais les fruits et les légumes vous apporteront bien suffisamment d'énergie et de glucose, et d'essayer de limiter un maximum les sucreries, bien entendu, surtout celles qui sont malsaines. Dans l'alimentation vivante, vous saurez que si vous cherchez à intégrer de plus en plus de crus et que vous aimez découvrir des nouvelles recettes, il y en a de nombreuses pour des desserts, et les desserts crus sont vraiment magnifiques. Et on utilise essentiellement des produits sucrants qui sont en tout cas nettement moins nocifs que le sucre raffiné ou les farines raffinées pour créer des desserts qui sont doux et très très agréables. Alors bien sûr, je rajouterai quand même qu'un écart de temps à autre, ce n'est pas bien grave, ce n'est pas ça qui va faire couler le navire, mais soyez conscient de vos choix. Alors si on parle de nutriments, il faudrait aussi parler des micronutriments. Et les micronutriments sont ceux qui sont en bien plus grande quantité dans l'alimentation vivante, tout simplement parce que, entre autres, on n'a pas détruit les enzymes, ces enzymes qui sont détruites à 42 degrés et qui font que les aliments cuits sont dépourvus d'une matière importante pour faciliter la digestion, et pas seulement, parce que les enzymes ont des tas de fonctions distinctes dans le corps. Mais quand on mange un produit qui est dépourvu d'enzymes, eh bien, il va être plus difficile à digérer, plus difficile à assimiler. D'où l'intérêt de manger un maximum de choses crues, un maximum d'aliments crus, et surtout de commencer chacun de vos repas par du cru. Alors, ces micronutriments sont en première partie les minéraux. Les minéraux sont extrêmement importants pour des tas de fonctions dans le corps, et ils sont très riche dans les fruits et les légumes, mais surtout dans les légumes à feuilles vertes. On revient toujours à la même chose, hein, ce fameux vert. Ainsi, poursuivez cette consommation de vert tous les jours, sous toutes les formes, que ce soit des jus, des smoothies, des salades, des soupes crues ou pas, ou des légumes encore cuits vapeur, ou sous quelque forme qu'ils soient. Mais voilà, je viens de mentionner en tout cas les formes les plus saines qui soient pour consommer des légumes à feuilles vertes. Donc vraiment, maintenez cette consommation dans votre quotidien. Les algues, bien sûr, les graines germées sont aussi des sources particulièrement riches en minéraux de toutes sortes. Les vitamines, on en trouve dans tout le monde végétal, et bien entendu, surtout dans les fruits. Mais les deux vitamines dont je voudrais juste mentionner aujourd'hui, ce sont les deux vitamines qui, en tout cas pour moi, ont posé problème et posent encore problème, et qui sont réputées comme étant des vitamines dans lesquelles un grand nombre de personnes peuvent présenter une carence. Et ces vitamines sont la vitamine B12 et la vitamine D. Alors, la vitamine B12, il y a toute une discussion autour de la B12. Les personnes qui ne consomment plus de protéines animales risquent vraiment d'en manquer. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, même la viande n'est plus une source fiable de vitamine B12. Et tout cela probablement dû en raison du fait que les animaux maintenant d'élevage ne sont plus nourris de la même manière. Et par conséquent, ils manquent eux-mêmes de B12. Donc, on ne va pas en trouver dans leur chair quand on la consomme. Mais la situation est telle qu'en réalité, les personnes sont très très différentes en ce qui concerne la B12. Certaines personnes la fabriquent, certaines personnes la stockent, et d'autres ne la stockent pas et ont de la peine à l'absorber. Donc voilà, il y a vraiment des cas de figure très très différents. Et pour moi, la meilleure manière de s'assurer qu'on a suffisamment de vitamine B12 pour une santé optimale est la prise de sang régulière. Moi, je la fais une fois par année. Et je dois dire que ça fait 2 ans que je n'ai plus de problème de B12, mais il y a 3-4 ans, j'avais un problème vraiment très important. J'étais en carence sévère et j'ai dû faire des prises de sang, j'ai dû me faire injecter de la vitamine B12, parce que quand on en manque, ça peut vraiment être une situation qui peut s'avérer assez grave. Donc surveillez la B12 quand vous faites des prises de sang. Et sachez que vous n'avez peut-être pas du tout de problème, et peut-être que vous mangez de la viande et que vous avez quand même un problème. Donc c'est une bonne chose à savoir. La vitamine D, quant à elle, elle est aussi une vitamine qui manque cruellement, et elle est directement liée à notre système immunitaire. Et la vitamine D est une vitamine que l'on obtient par synthèse du soleil. Donc finalement, le plus on est dehors au soleil, et le plus on va avoir de vitamine D. Mais pas seulement. C'est pas aussi simple. Et les personnes qui vivent dans les pays avec beaucoup de soleil et qui ont quand même des carences en vitamine D. Il se trouve que nos populations occidentales sont en carence plus ou moins chronique, mais surtout en période d'hiver, et forcément puisque nous manquons d'exposition au soleil en hiver. Alors c'est une autre vitamine à surveiller, parce que si elle nous fait défaut, notre système immunitaire va être cruellement fatigué, il va être fatigué, il ne va pas fonctionner de la même manière, et c'est ce qui va donner des rhumes à répétition, des infections à répétition, alors surtout en période d'hiver quand on en manque. Donc voilà, je vous invite à être attentif à ces deux vitamines si vous voulez surveiller votre santé, puis surtout faire ce que j'appelle la prévention, à savoir s'assurer que tous les indicateurs sanguins sont en bonne situation, parce que c'est ça qui va vous dire que votre terrain n'est pas un terrain fertile, qui va être amical pour toutes les bactéries, les infections, etc. Et donc c'est le terrain qui va nous indiquer si oui ou non nous allons développer des maladies ou pas. Parmi les autres micronutriments qui sont plus riches donc dans les fruits et légumes crus figurent bien sûr les oligoéléments, mais les antioxydants ou encore les électrolytes, etc. Et ils sont particulièrement riches dans l'alimentation crue. Donc voilà, encore une fois, je vous encourage à manger cru le plus souvent possible. Alors, quelques mots encore sur certains aliments et quelle place leur réserver dans une alimentation saine à long terme. Alors l'eau, vous m'avez beaucoup entendu parler d'eau. Mais c'est très important. L'eau est un nutriment, c'est même le nutriment le plus important puisque notre corps est constitué à plus de 60% d'eau. Cette eau, elle permet d'hydrater les cellules, elle permet de faire circuler tout un tas de choses, que ce soit les nutriments pour les apporter vers les cellules, que ce soit les déchets pour les apporter vers les organes d'élimination, ou que ce soit tout simplement des informations, énormément d'informations circulent à travers l'eau. Donc il est très important d'en avoir suffisamment dans le corps et de la renouveler sans arrêt, puisqu'on en perd, tous les jours par les mécanismes métaboliques habituels. Et il faudrait en boire vraiment régulièrement et toute la journée, entre les repas de préférence, afin de ne pas diluer les sucs digestifs. Donc boire de l'eau pendant les repas va entraver la bonne digestion des aliments. Donc je vous encourage à boire de l'eau toute la journée, mais entre les repas. D'en boire en tout cas au réveil, une bonne quantité. Buvez-en aussi avant d'aller vous coucher, même si vous avez peur d'être réveillé. Alors ça c'est une question de pratique, c'est une question aussi de la vessie, qui est un muscle comme un autre et qui va s'exercer à contenir suffisamment d'eau pour que vous puissiez dormir sans être réveillé par le besoin d'uriner. Mais en tout cas, il semblerait qu'on dorme beaucoup mieux si on a bien bu avant d'aller dormir. Alors essayez, c'est peut-être une nouvelle chose à essayer aussi dans votre pratique si vous n'en avez pas l'habitude. En tout cas, boire devrait être le premier geste santé, quelle que soit votre situation. Et avant tout autre geste de santé, si vous ne vous sentez pas bien ou vous avez faim, vous savez qu'avoir faim souvent est en réalité une sensation de soif qui s'annonce comme une, ou en tout cas on l'interprète comme étant une sensation de faim. Donc l'eau vraiment, c'est le premier nutriment, ne l'oubliez jamais. Les fruits et légumes, pour moi, ce sont la deuxième catégorie la plus importante et qui devrait constituer à mon sens vraiment la catégorie principale de notre alimentation, en tout cas en termes de volume, sinon en termes de poids. À consommer donc en abondance et bien plus que les 5 portions qui sont recommandées par les grandes campagnes de santé publique. En tout cas, bien plus que 5. Moi, j'en consomme en tout cas 10, sinon 15 tous les jours. Essayez de les choisir mûrs le plus souvent possible quand il s'agit des fruits. Et donc de les consommer plus ou moins sans limite, en tout cas les légumes. Les fruits, un petit peu moins sans limite, mais tout dépend encore une fois de comment vous vous sentez quand vous mangez beaucoup de fruits. Alors beaucoup de fruits, c'est quelque chose qui marche très très bien pour les personnes actives qui font beaucoup de sport, les athlètes bien entendu, mais aussi les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, qui ont besoin vraiment d'une quantité d'énergie supplémentaire. Alors parmi les légumes, faut privilégier ceux que je vous encourage de privilégier, mis à part tous les légumes à feuilles vertes, ce sont les légumes de la catégorie des crucifères, qui sont riches en antioxydants et qui contiennent un soufre aussi extrêmement utile aux propriétés anticancéreuses. Donc parmi les crucifères, on entend toute la famille des choux, à savoir le chou frisé, le chou plat, le chou pomme, le chou plume, les choux fleurs, les choux de Bruxelles, donc tous ces choux, mais aussi les brocolis, et autres romanesco, et encore le rutabaga. Autre catégorie de légumes à recommander sont tous les légumes colorés. Ces légumes colorés, en fait la couleur, c'est une forme de pigment qui est signe de la présence d'antioxydants et de vitamine C. Donc ces légumes sont très importants pour l'immunité et pour la bonne santé. Dans ces légumes figurent les carottes, toute la famille des courges, les tomates, mais aussi les poivrons. Et les poivrons de couleur rouge, jaune ou orange. Évitez les poivrons verts qui ne sont pas mûrs. C'est un légume qui n'est pas arrivé à maturité, donc qui n'est pas recommandé d'en consommer. Autre catégorie de légumes, de légumes, ce sont ceux qui sont riches en soufre. Et à nouveau, ce soufre qui est très utile à la santé, mais ceux-ci sont particulièrement utiles pour leurs propriétés détoxifiantes et anti-infectieuses. Et par là, j'entends les oignons, l'ail et toute la famille des radis, le radis noir, le radis blanc, les petits radis rouges. Tous ces radis sont riches en soufre. Ce soufre, c'est ce qui donne ce goût très piquant. Et c'est une bonne chose, c'est détoxifiant, donc on en avait déjà consommé pendant cette semaine de détox. Continuez à en consommer de manière quotidienne parce qu'ils vous font le plus grand bien. Détoxifiant, on sait que l'oignon, comme l'ail, mais surtout l'ail, est un régénérant du sang. Donc à consommer sans limite. Les céréales sont une autre catégorie d'aliments dont je vous ai dit que moi j'en avais nettement diminué la quantité et je n'en consomme pas tous les jours. Si vous voulez continuer à en consommer, Alors, consommez de préférence ceux qui sont sans gluten, ceux qui sont dépourvus de gluten, puisque ce gluten est cette fameuse colle qui représente une catastrophe pour les intestins humains. Et donc, ce serait mieux de les éviter. Si vous ne voulez pas éviter les produits contenant du gluten, mangez-les, mais en modération. Soyez simplement conscients qu'ils font partie de cette catégorie d'aliments qui sont plus difficilement digérés par le corps humain et qui peuvent, à terme, provoquer des déséquilibres. Parmi ceux qui sont sans gluten, alors on en a déjà parlé toute cette semaine aussi, hein, mais pour la plupart d'entre nous, on les a évités ou écartés cette semaine, donc la semaine passée, donc la semaine d'intégration, la semaine post-détox va être la semaine où on va pouvoir, si on en a envie, c'est pas du tout une obligation, mais si on a envie de les réintégrer, alors consommer de préférence du riz complet ou du riz sauvage. Il y a encore le quinoa, le sarrasin, l'amarante ou le millet. Pensez à toujours faire tremper ces céréales ou ces graines. Non seulement pour les faire germer, ce qui est la manière idéale de les consommer, vous les faites germer et vous les consommez donc crus, ou bien avant de les faire cuire, ce sera une bonne chose de les faire tremper parce que vous allez réactiver les enzymes et puis les enzymes que vous allez détruire en cuisant, bien sûr, mais c'est de toute façon une forme de prédigestion qui est utile même en cas de cuisson. Et bien entendu, alors, il est conseillé d'éviter le blé de manière générale, le pain, le blé cuit et le pain. Sauf si vous tenez beaucoup à votre pain, alors choisissez les pains de manière vraiment très, très, en cherchant la qualité, à savoir les pains qui sont cuits au levain, par exemple, ou les pains au blé complet, avec des graines, etc., cuits au feu de bois, enfin voilà. Il y aura toujours une manière de choisir un pain de manière à ce qu'il soit beaucoup plus sain pour l'organisme que les pains qui sont à base de farine trop raffinée. Les légumineuses, alors celles-ci constituent aussi une source intéressante de nutriments. On n'en a pas beaucoup parlé cette semaine, mais si vous voulez consommer des légumineuses, je pense que c'est une source très intéressante de protéines, surtout pour les végétariens ou végétaliens. Et la manière la plus intéressante de les manger est de les manger crues, une fois qu'elles ont été germées. Mais si ça reste quelque chose d'indigeste, alors dans ce cas, vous pouvez les cuire à la vapeur, mais les cuire qu'une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes après les avoir germés. Ils vont rester croustillants, mais la cellulose aura été cassée, les cellules des légumineuses auront été plus ou moins décomposées, donc elles s'avéreront nettement plus digestes pour l'organisme. Les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, moi, je recommande de s'en passer, d'en consommer le moins possible, parce que eux, comme le gluten, constituent vraiment une de ces catastrophes pour les intestins. Même si on pense qu'on les tolère bien, il n'est pas exclu qu'ils fassent quand même des dégâts. Alors, on sait bien que le lait de vache est déjà naturellement riche en hormones de croissance, mais ces hormones qui sont vraiment destinées aux veaux, c'est-à-dire aux petits de la vache. Mais en plus, on les enrichit encore industriellement par des hormones de croissance afin de minimiser le cycle de production, si vous voulez. Et donc, le lait de vache, aujourd'hui, n'est plus du tout ce qu'il était. Et malheureusement, dans l'état actuel, je ne recommande pas cet aliment tous les jours, que ce soit pour vous ou vos enfants. Libre à vous de faire ce genre de choix, mais vous savez bien que dans l'alimentation crue, alors moi, je recommande plutôt la consommation d'autres lait que le lait de vache, et donc par conséquent le lait, en particulier le lait d'amande et tous les laits de noix, mais aussi les laits de graines comme le lait de sésame ou encore le lait de chanvre, qui pour moi est vraiment le lait le plus sain et que vous pouvez fabriquer chez vous à la maison, c'est très très facile. Si vous ne pouvez pas vous passer de produits laitiers, alors essayez de privilégier en tout cas les produits issus de la chèvre ou de la brebis, comme les laits de chèvre, le lait de brebis ou les fromages et yaourts de chèvre et de brebis, qui sont en tout cas bien mieux tolérés. Une autre catégorie de produits laitiers que vous pourriez consommer de temps à autre, hein, peut-être pas tous les jours, mais ce serait le fromage de lait de vache, mais de lait de vache cru, donc non pasteurisé, parce qu'il vous apportera alors des bienfaits, parce que c'est un produit fermenté et qui va pouvoir vous apporter des choses intéressantes. Voilà, les yaourts de préférence bio aussi, ça peut présenter un certain intérêt, en tout cas dans la mesure où leurs probiotiques qui sont issus de la fermentation sont encore présents. Voilà. Alors, discutons peut-être maintenant des produits à essayer de manger le moins possible ou à éviter à tout prix. Et parmi ces produits figurent tous les produits raffinés et industriels, parce qu'il est recommandé, bien entendu, de remplacer tous les produits industriels par des produits complets, enfin de remplacer la farine blanche. Si vous devez consommer de la farine, remplacez la farine blanche par de la farine complète. remplacer pour la plupart du temps les produits raffinés par les produits complets, parce que les produits raffinés en fait ils sont dépourvus d'une partie intéressante de leurs nutriments et à ce titre ils sont bien moins assimilés par le corps. Éviter les plats préparés, les plats industriels, les fast-foods, c'est pratique, ça plaît, mais ce sont des calories vides, hein, on se rend bien compte, ils sont chargés en produits chimiques, certains de leurs nutriments ont été éliminés pour être réintroduits. Enfin, c'est plus vraiment des aliments à la fin, c'est plus du tout ce que la nature nous a apporté. Ça a été trop transformé et en général, c'est pas étonnant si ces produits, justement, ne suffisent pas à nous rassasier. Quand on les consomme, on a faim un peu plus tard et on doit de nouveau en consommer. C'est typique, disons, de ces produits de la restauration rapide, hein. Et donc par conséquent ils ne nous nourrissent pas au niveau cellulaire, nous avons encore faim après les avoir consommés, et donc il devient urgent de remanger. C'est bien pour ça qu'on prend du poids, donc à éviter. Mais parmi tous ces produits, ceux sur lesquels j'aimerais vraiment attirer votre attention, parce qu'il y en a certainement d'autres, mais sur la base de mes propres connaissances que j'ai pu accumuler ces dernières années, en tout cas, il y a une catégorie à laquelle il faut être particulièrement attentif, et ce sont les édulcorants artificiels. Parmi ceux-là, l'aspartame, le saccharose, qui sont vraiment, s'avèrent être des vrais poisons. Les produits industriels pauvres en calories qui sont recommandés par exemple par l'association Weight Watchers, qui vous recommande de surveiller les calories. Alors tous les régimes qui vous font surveiller les calories vont vous recommander ces produits pauvres en calories comme le Coca Light, mais aussi tous ces yaourts qui sont faibles en calories, ils contiennent de l'aspartame. N'en consommez pas. L'aspartame est un poison. Si vous en consommez de manière régulière, le corps qui ne sait pas quoi en faire, ne sait pas du tout comment traiter cette substance, la stocke dans le foie et ça peut être le résultat de maladies vraiment très graves. Ça va atteindre les neurones et on a plusieurs cas aux États-Unis de personnes qui ont fini handicapées. Enfin, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. En tout cas, il faut absolument éviter ça à tout prix parce que ce sont des poisons. Parlons à présent d'une autre catégorie d'aliments qui sont les stimulants. Alors j'en ai parlé durant la première semaine pour vous encourager à abandonner ces stimulants, en tout cas durant la période de cure, la période de détox. Si vous avez pu faire 7 jours de détox sans aucune consommation d'alcool et de café, bravo, j'espère que c'est le cas parce que vraiment ce sont des produits qui auraient empêché vos organes internes de se nettoyer. Alors, c'est stimulant. Est-ce que vous allez vouloir les réintroduire? Si vous avez pu vous passer de café pendant 7 jours, alors vraiment, je vous encourage à poursuivre. Mais si vous n'avez pas pu le faire, ou si vous vous êtes promis d'y revenir, vraiment, ça, c'est un choix très, très personnel dans lequel je n'interviendrai pas. Je vous invite simplement à prendre conscience du fait que tous les stimulants sont des produits qui fatiguent vos glandes surrénales. Le café en particulier, le café en plus de ça, et déshydratant. Donc, en tout cas, si vous voulez continuer à en consommer, pensez à consommer énormément d'eau en parallèle et pensez à diminuer la quantité que vous consommez. En effet, énormément de fatigue chronique et d'épuisement sont le résultat d'une consommation régulière de café ou de thé. Alors, le thé peut avoir un effet différent. Le thé contient une théine, mais qui n'a pas le même effet que la caféine. Donc, certaines personnes tolèrent le thé très bien, mais soyez quand même conscients que le thé, y compris le thé vert, sont des stimulants dans l'organisme et par conséquent peuvent contribuer à une certaine fatigue ou un épuisement de nos glandes surrénales, qui sont celles qui entrent en jeu par rapport à toute stimulation et tout stress. L'alcool est aussi un autre bastion qu'il est pratiquement impossible de déloger, hein. Ça fait partie de notre culture locale, surtout en Suisse ou en France ou en Italie, où on vit dans des pays producteurs de vin et où le vin est devenu, plus qu'une couleur locale, hein. C'est un ingrédient qui fait partie de nos repas quotidiens dans la plupart de nos familles. Alors, si dans la consommation d'alcool, alors moi je dois dire que je n'ai pas cessé de consommer du vin de manière générale, mais là ça fait 10 jours, bien entendu, dans la période de détox, alors que j'ai abandonné ça bientôt 2 semaines, je dirais même 2 semaines exactement, que je n'ai pas touché une goutte de vin et je m'en porte très bien. Je dois dire qu'un des symptômes évidents pour moi quand je consomme du vin, c'est un sommeil qui est perturbé. Et dès le moment où je l'abandonne complètement, j'ai un sommeil beaucoup plus profond et plus réparateur et une meilleure énergie. Donc, donc j'apprécie beaucoup le fait de l'avoir mis de côté. Mais les occasions sociales font que je ne vais pas m'interdire la consommation de vin, et j'estime que parmi tous les alcools, le vin rouge est certainement celui qu'on pourrait privilégier parce qu'il est riche en antioxydants. Donc on entend beaucoup dans les médias l'apologie du vin et le fait que ça peut avoir des effets bénéfiques sur les maladies cardiovasculaires, etc. Donc pourquoi pas continuer à en consommer, mais les normes sont de 3 à 4 portions par semaine pour les femmes, de 6 à 7 portions pour les hommes, donc ça signifie pas plus qu'un verre par jour, un petit verre par jour, en tout cas pas plus. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, enfin les hommes ont la capacité d'en boire un peu plus, donc voilà, en tout cas moi, depuis que je suis passée au cru, j'essaie de m'en tenir à ça. Il est rare que je dépasse 2 verres, même dans les soirées bien arrosées. Je sens tout de suite mon corps qui réagit, qui n'en demande pas plus, qui a eu sa dose, voilà. Et si c'est le cas pour vous, alors c'est parfait. Mais bon, encore une fois, l'exception n'est pas coutume. Je suis d'avis qu'il faut vraiment apprendre à se faire plaisir, que ce soit avec les petites douceurs, que ce soit avec les produits qui ne sont pas porteurs de santé, mais qu'on peut se permettre de temps en temps. Alors, rappelez-vous bien ceci, c'est ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on fait le plus souvent qui compte. J'aime bien l'idée de faire attention à ce qu'on mange pendant la semaine et de se lâcher un petit peu plus le week-end. C'est le moment où on partage avec des proches, où on a des sorties, des réunions de famille, etc. Donc, faut se faire plaisir. On ne veut pas vivre en ermite, on veut pas vivre de manière sectaire, et c'est pour ça que vous savez très bien que moi j'ai une approche très, très souple par rapport à l'alimentation crue. Ça ne veut pas dire que le week-end je me goinfre et je mange tout et n'importe quoi. Non, ça veut dire que le week-end je continue à privilégier le cru, mais je ferai plus d'écart que pendant la semaine. Voilà, et en tout cas, ça c'est quelque chose qui marche très bien pour moi. Enfin, un petit mot de la fin sur les aliments. Encore une fois, manger bio, local, de saison, tout le monde se pose un peu ces questions. C'est difficile de vraiment répondre à ces 3 critères, bio, local et de saison. Enfin, le local et le de saison, c'est plus ou moins la même chose. Quoique, on peut manger des choses de saison, mais qui sont importées des pays limitrophes. En tout cas, c'est clair que si on peut rencontrer ces 3 critères dans nos achats, ben c'est parfait, mais c'est pas toujours facile, surtout en hiver. Et quand on mange cru, eh bien, on va manquer de variété en hiver. Donc moi j'aime bien aussi inclure ce qui vient de loin parce que c'est exotique, tropical, les fruits tropicaux en tout cas pour moi me permettent de rester à manger énormément de fruits et de légumes même en hiver. Et puis aussi de continuer à manger bio parce que par exemple les concombres on n'en trouve pas en hiver. Alors je sais que certains puristes refusent de consommer des produits hors saison, ce que je comprends fort bien. Et par exemple moi je m'arrêterai en tout cas à ne pas manger des fraises en hiver, ça n'a aucun sens. Mais des concombres qui nous viennent d'Espagne et qui sont cultivés sous serre, mais pourquoi pas, pour pouvoir continuer à boire des jus verts. Alors, ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais que je me permets de temps en temps. Alors, voilà, je pense que là, c'est à chacun de faire ses propres choix en fonction d'un certain nombre d'informations. Donc, voilà, toujours la même chose, on prône des choix intelligents. Voilà, ça c'était la partie sur comment choisir vos aliments, quels aliments privilégier, lesquels consommer en priorité. On pourrait encore dire quelques mots sur les préparations culinaires et le fait d'essayer d'intégrer dans votre quotidien, si vous n'allez pas intégrer une alimentation crue à 100% ou à 80%, en tout cas, essayez d'intégrer un certain nombre de préparations culinaires qui vont, si j'ose dire, favoriser la digestion. Parmi ces préparations figure la germination et vraiment j'encourage tout un chacun à intégrer les graines germées dans le quotidien. Ça fait partie de ces produits verts et donc si vous mettez à germer vos propres graines, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sinon, à acheter des graines déjà germées et les mettre dans vos jus, dans vos smoothies, sur vos salades, dans vos sandwichs, enfin un petit peu partout. La germination, c'est vraiment une source très importante de nutriments biodisponibles. L'autre catégorie de préparation culinaire, c'est la fermentation. Alors la fermentation, ça peut être quelque chose de très nouveau pour vous tous. C'est pourquoi je vous encouragerais, si ça vous intéresse, à vous informer sur cette question, à peut-être suivre des cours. Alors cet automne 2014, Simplement Cru va proposer un cours sur la fermentation. Donc ça pourrait être l'occasion pour vous d'en apprendre plus. Sinon, renseignez-vous sur Internet, il y a énormément de choses à apprendre. Je vends aussi un petit livret, un support de cours sur la fermentation. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Sinon, achetez de la choucroute crue. On en trouve, la choucroute crue, on la trouve dans les magasins, en tout cas ici en Suisse, et vous pouvez en rajouter à vos plats. L'idée n'est pas de manger un grand plat de choucroute, comme ça se fait dans le cas de la choucroute cuite, qui d'ailleurs est accompagnée de charcuterie et de viande, et pas des meilleures. Mais l'idée est de tous les jours de manger une cuillère à soupe à deux cuillères à soupe de produits fermentés, parce que c'est ça qui va vous apporter de manière régulière des probiotiques qui vont eux compenser les désastres causés par les antibiotiques et tous les produits raffinés que l'on mange et qui tuent notre flore intestinale. Si on veut parler un tout petit peu aussi de mode de cuisson, alors si vous devez cuire, je vous encourage à cuire plutôt à la vapeur ou à basse température au four. Ce sont les méthodes de cuisson les moins nocives. Évitez à tout prix, bien entendu, les cuissons très élevées comme la friture, les cuissons à température très élevée comme la friture ou encore la grillade. Pour les modes de conservation, je vous ai souvent dit d'essayer en tout cas les jus, les smoothies peuvent se conserver dans des bouteilles en verre au frigo. Gardez vos produits au froid, au frais, c'est ce qui va conserver les nutriments de vos fruits et de vos légumes frais, de vos préparations crues ou même des préparations cuites. Ne conservez pas les aliments trop longtemps parce que c'est ce qui va endommager la quantité de nutriments qui seront présents, donc ils vont être nettement moins nourrissants au niveau cellulaire. Le meilleur mode de conservation, ou le moins mauvais en tout cas, ce sera la congélation, qui permet vraiment de préserver un maximum de nutriments. Les aliments restent vivants une fois congelés, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, évitez tous les produits de conservation dans ce que vous pouvez acheter en magasin, et puis bien entendu les boîtes de conserve ou les produits préparés avec conservants, ou la pasteurisation qui aura tué une partie des nutriments. Enfin, parmi les bonnes habitudes que vous voulez peut-être conserver de ce qu'on a appris cette semaine, à part les jus et les smoothies, figure peut-être la préparation des sauces à salade avec moins de matières grasses et plus de légumes et de fruits pour aromatiser, mais aussi des épices, des herbes aromatiques, etc. Un dernier mot encore sur les combinaisons alimentaires. On en a beaucoup parlé la première semaine, et c'est pour ça qu'on a éliminé toute une catégorie de choses et qu'on a privilégié les jus, les smoothies et les salades dans cette semaine de détox. Alors continuez sur cette voie et gardez à l'esprit peut-être les quelques principes de base qui sont les suivants. Buvez de l'eau surtout entre les repas, je le répète, pour ne pas diluer les sucs digestifs pendant le repas, et buvez beaucoup entre les repas. Commencez les repas par le cru, parce que c'est ce qui va vous apporter des enzymes digestives et donc faciliter la digestion de tout ce que vous allez ingérer pendant ce repas. Essayez de ne pas mélanger protéines et glucides dans un même repas, c'est le fameux régime dissocié. Donc si vous allez consommer de la viande ou du poisson, évitez de les consommer avec des glucides, que même les glucides sans gluten, mais surtout les glucides avec gluten. Donc vraiment séparer les deux, ne pas manger des pâtes en même temps que la viande, ou ne pas manger du poisson en même temps que du quinoa, mais manger des légumes à tous les repas, et en tout cas des légumes verts. Les légumes verts, vous pouvez les mélanger avec plus ou moins tout, donc même avec les fruits. Donc sachez que les légumes à feuilles vertes sont vraiment une catégorie à part qui vont s'associer avec tout. Les fruits, à part avec le vert, comme je viens de le dire, les fruits se consomment de préférence tout seuls. Ça, c'est vraiment la meilleure manière de les consommer. C'est vrai que j'aime bien, moi, pour ma part, manger des fruits avec de temps en temps des noix. Et là, il faut s'observer. Pour certaines personnes, ça se passe bien. Pour d'autres, ça se passe moins bien. Moi, je dois dire que les noix, comme je mange beaucoup de cru, c'est vrai que j'ai eu tendance à manger, à bien privilégier les noix. Et les noix sont quand même un aliment qui est très dense et qui n'est pas toujours très très bien digéré, surtout si elles n'ont pas été trempées auparavant. Donc pensez, si vous aimez manger des noix de pécan, des amandes, de restreindre la quantité et puis de les manger après les avoir faites tremper. Voilà, alors on arrive sur le mot de la fin, donc le guide de cette semaine 3, vous verrez aussi encore dans votre document une liste de choses à retenir. J'ai appelé ça le saviez-vous, des petits points sur l'alimentation qui peuvent être utiles à vraiment comprendre et intégrer. Un certain nombre de principes de base à retenir, que ce soit en termes alimentaires ou en termes de mode de vie, on en a beaucoup parlé et j'aimerais surtout finir là-dessus. Cette semaine post-détox, c'est une semaine qui va vraiment viser à intégrer un certain nombre de bonnes habitudes, à être un petit peu plus souple, et puis surtout prenez cette semaine pour intégrer des aliments que nous avons écartés un à la fois. Que ce soit les bons gras, prenez du temps pour les réintégrer, voyez comment vous réagissez parce qu'ils vont affecter votre digestion. Et surtout, donnez encore du temps, si vous le pouvez, au foie et à la vésicule biliaire pour se nettoyer et se drainer. Mais réintégrez-les petit à petit parce que ça fait partie d'une alimentation quotidienne, hein, ces bons gras. Les céréales germées ou les céréales cuites. Et ensuite, les produits laitiers, si vous y tenez, sinon des produits à base de lait de brebis ou de lait de chèvre. Une autre chose que vous pourrez réintégrer, bien entendu, sur les produits d'origine, les protéines animales, si vous tenez à réintégrer ça dans votre alimentation, que ce soit la viande ou le poulet ou le poisson. Alors le poisson, je dirais, c'est celui qui est le plus facile à digérer. Le poulet viendrait ensuite, et puis la viande rouge. Si vous avez choisi de la garder dans votre alimentation, ce sera plutôt en fin de semaine qu'on va réintégrer ces produits-là. Les stimulants, si vous ne pouvez plus vous en passer. Et puis les produits raffinés, si vraiment vous ne pouvez plus vous en passer, mais que je recommande de consommer vraiment en modération. Donc voilà, vous allez voir avec les courriers de cette semaine lesquels je vous propose de réintroduire les uns après les autres, de manière à aller très doucement et à permettre au corps de se réadapter. Sinon, avant de terminer, je voulais vous dire, la détox, j'espère que ça ne va pas être une expérience complètement unique que vous aurez fait qu'une fois. J'espère que ce que vous avez pu découvrir par rapport à ce que ça vous apporte en termes de ressenti, en termes de forme, en termes d'énergie, tous ces symptômes qui auront disparu et tous ces bienfaits que vous avez expérimentés, que ces bienfaits puissent durer, continuez à surveiller la manière dont vous mangez, mais continuez à surveiller aussi la manière dont vous vivez. Continuez à pratiquer les pensées positives, à prêter attention à votre niveau de stress, à essayer de maintenir ce stress, à essayer de le diminuer avec de la relaxation, de la détente, la pratique régulière de yoga, des méditations guidées avant d'aller vous coucher, d'être à l'écoute de votre cœur. Toutes ces pratiques vont être des pratiques extrêmement utiles. Ça va aider votre digestion, ça va aider l'assimilation des nutriments, ça va aider votre sensation de sentiment de joie et de bien-être, donc extrêmement important. N'oubliez pas de continuer à bouger. J'espère que la semaine de détox, avec un petit rappel tous les jours, et comme ils font partie de vos gestes, votre liste de gestes détox, si vous avez pensé à bouger tous les jours pour faire circuler la lymphe, pour faire circuler l'oxygène, le sang, pour vous sentir en meilleure forme, pour vraiment stimuler ces hormones positives, ces hormones de bonne humeur, eh bien, continuez à le faire, faites-le régulièrement. Et s'il y a certaines choses que vous n'avez pas pu vraiment aborder pendant la semaine de détox, eh bien, donnez-vous la peine de le faire dans les semaines qui viennent, une à la fois. Si la semaine de détox pour vous a été l'occasion de vraiment vous pencher sur les questions d'alimentation, de choix d'alimentation, de quantité d'alimentation, et de vraiment restreindre tout ça pour être plus en contact avec le corps, et le cœur aussi, mais d'avoir eu l'occasion de voir pour vous ce que c'était que de manger beaucoup plus sainement, eh bien peut-être que les semaines qui viennent seront l'occasion de vous pencher sur ces autres aspects de la santé que sont en tout cas le stress, les émotions et l'exercice. Donc très très important de continuer à cultiver cette pleine conscience de qui vous êtes, de comment quels sont les gestes que vous pouvez tester et adopter à long terme pour vous sentir mieux. Voilà. Je tiens encore à vous remercier. J'étais vraiment fière et honorée de vous accompagner pendant ces 3 semaines. Ce n'est pas un au revoir. Au contraire, je pense que ce programme Easy Detox est un programme que j'ai voulu créer pour vous permettre d'expérimenter ce que l'une détox peut vous apporter et vous donner envie de la faire de manière régulière. Je suis vraiment enchantée de la manière dont cette première édition s'est déroulée et cette édition va être menée à nouveau, bien entendu. L'idée, c'est de la rendre disponible en direct dans cette même formule que nous avons faite à présent et qu'elle ait lieu 2 fois par année. L'équinoxe du printemps et l'équinoxe d'automne sont pour moi les périodes vraiment les plus propices à mener une détox de ce genre, donc en direct, en groupe. Donc n'hésitez pas à la mener à nouveau. Entre deux, évidemment, puisque vous avez tous les outils à disposition, rien ne vous empêche de la mener à nouveau, de la reconduire quand bon vous semble, ensemble ou avec des amis ou seul ou avec des proches. Mais pourquoi ne pas envisager l'idée aussi de faire une détox de manière plus régulière, par exemple une journée par semaine ou bien une demi-journée par semaine, la journée par exemple, pourquoi pas choisir une journée dans la semaine où vous pouvez boire toute la journée et avoir un repas très léger le soir, une petite salade. L'idée que je trouve excellente, c'est de le faire par exemple tous les lundis après le week-end où vous êtes permis de certains excès. Ça fera énormément de bien à votre foie qui aura besoin d'être allégé. Hein, son travail sera allégé par une journée de détox le lundi pour pouvoir répercuter du surplus de travail durant le week-end. Enfin voilà, c'est une idée. Ou après la semaine de Noël, de faire une petite cure de détox à votre sauce, avec certaines adaptations selon ce que vous vivez en ce moment même. Enfin voilà, je pense que les informations qui vous ont été fournies sont extrêmement vastes et j'espère de tout cœur qu'elles vous auront apporté l'envie, la motivation, la confiance qu'il faut pour mener tout ça à bien et puis surtout pour vous amener vers un chemin de pleine santé, de joie, de bonheur et d'amour. Encore merci de m'avoir accompagnée, de m'avoir suivie. Je suis ravie d'avoir été votre guide, votre source d'inspiration et je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci pour votre gratitude, cela me transporte et m'encourage à continuer. Et donc je vous souhaite une excellente troisième semaine de Easy Detox et je vous dis à bientôt. You want an amazing health advice out of tea.